RCF.
Un génie avec des fulgurations, disait le pape Paul VI. Maurice Zindel est aujourd'hui reconnu comme l'un des grands auteurs spirituels du XXe siècle. Près de 50 ans après sa mort, des associations d'amis de Zindel se nourrissent de ses paroles et la fondation qui gère son œuvre annonce le lancement de la parution de ses œuvres complètes. Alors, qui était Maurice Zindel? Pourquoi le lire aujourd'hui? C'est le thème de Vitamine C, la suite cette semaine.
Vitamine C, Vanessa Sanson.
Et pour répondre à cette question, je me trouve à Lausanne, dans la paroisse catholique du Sacré-Cœur, où était basé Maurice Zindel de 1946 à 1975. Pour ceux qui connaissent cette belle ville du canton francophone, nous nous trouvons à moins de 10 minutes à pied du Quai d'Ouchy, très belle promenade sur les rives du Léman, ou encore à 5 minutes du CIO et du Musée Olympique. Nous accueille ici l'abbé Marc Donzé. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup. Vous avez créé la fondation Maurice Zindel en 1995. Vous en êtes aujourd'hui président après avoir passé la main pendant longtemps. La fondation qui conserve les biens de Maurice Zindel, qui assure la publication de ses œuvres. Zindel est présent partout ici. On a tellement de belles photos de l'abbé Zindel dans vos locaux. Jean-Marc Dietrich, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du conseil de la fondation, président de l'association des amis de Maurice Zindel pour la France, plus de 420 adhérents. À ma gauche, l'abbé Gilbert Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous avez bien connu Maurice Zindel, vous êtes auteur d'une biographie, vous avez même prêché à l'enterrement de ce grand homme spirituel. Pasteur Virgile Rocha, je vais réussir à le dire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aumônier, ancien pasteur de la cathédrale de Lausanne et Zindéliens, on peut le dire.
Mais oui.
Et oui, et protestant. Vous allez nous expliquer en quoi l'œuvre de Maurice Zindel est écuménique. Myriam Volorio-Pérard, bienvenue.
Bonjour.
Et merci d'assurer la présence féminine indispensable à notre table ronde. Vous êtes la présidente des Amis de Zindel pour la Suisse, 300 adhérents. Alors avant que vous nous expliquiez du coup toute la richesse de l'œuvre de Maurice Zindel et pourquoi vous travaillez, vous tous, à votre manière, à la diffusion de sa pensée, j'aimerais que vous nous donniez quelques éléments clés sur l'homme qu'il était et sur sa vie. Du coup, je vous propose une approche chronologique. Je vais lire des éléments de sa biographie et m'interrompre régulièrement pour que vous nous éclairiez. Il y a des mystères que vous allez nous aider à percer. Maurice Zindel est donc né à Neuchâtel le 21 janvier 1897. Influencé par sa grand-mère maternelle protestante, elle lui donne le goût de l'évangile. Elle éveille en lui un sens critique qui, il faut le dire, dans l'église catholique n'était pas trop en vogue à cette époque. L'année de ses 15 ans, il conforte sa vocation pour la prêtrise. À la même époque, il fait à l'église Notre-Dame à Neuchâtel une rencontre mystique avec la Vierge Marie et remet dès lors toute sa vie entre ses mains. Alors ma première question est bête, mais pourquoi il est devenu prêtre et pas pasteur?
Tout simplement parce qu'il était catholique, de parents catholiques. Et alors c'était intéressant parce qu'il était un catholique pieux et ses camarades d'école, dont le célèbre Jean Piaget, l'avaient surnommé, selon le roman de Renard, Tiercelin, c'est-à-dire le corbeau, parce qu'il avait déjà un petit air curé à cette époque-là.
ceci dit, l'influence protestante est forte dès le départ dans sa vie, sa grand-mère maternelle, et puis je crois que l'année de ses 15 ans aussi, quand il conforte sa vocation pour la prêtrise, il a des amis protestants.
Alors son plus grand choc écuménique, dans le bon sens du terme, c'est quand il a pu lire la Bible en entier, et surtout d'abord l'évangile de Jean en entier, avec un de ses camarades protestants, ce qui était impossible pour un petit catholique.
Et, ouais. Et alors cette rencontre mystique, comment il la décrivait? Quelle influence elle a eue sur sa vie?
Il l'a raconté, et c'est très connu, dans le temple, dans l'église catholique de Neuchâtel, qu'on appelle la Rouge. Et ça a changé sa vie, très certainement. C'est la rencontre avec la Vierge qui l'a accompagnée tout le temps. Et du point de vue de l'expérience de l'amour dans tous les sens, ça a été extrêmement important pour lui.
Comment il décrivait ce jour particulier? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il ne me l'a jamais décrit.
Au couvent de Bathari, en 67, il l'a indiqué aux sœurs qui l'avaient reçu. Il leur a dit que c'était un jour de la fête de l'Immaculée Conception. Pendant que je priais en l'église, devant la statue de Notre-Dame, j'ai ressenti quelque chose d'intraduisible. C'était une grâce mystérieuse, une présence. Il s'est passé quelque chose que je ne puis définir. J'en vis encore, et cette présence a grandi avec les années.
Donc à la fois ce lien fort avec la Vierge Marie, cette influence du protestantisme, ce goût de la critique, de s'approprier les paroles. On sent déjà dès le début de la vie de Maurice Zindel tout un tas de choses qui se mettent en place. Je continue mes éléments de biographie. Il étudie la théologie à Fribourg. Il est ordonné prêtre en 1919. Nommé vicaire à Genève, il abandonne rapidement l'enseignement sec des dogmes. Il choisit de témoigner de l'amour divin basé sur la relation, la générosité et l'attention aux pauvres. Influencé par la pensée de François d'Assise, la pauvreté prend une place essentielle dans sa vie. Il est jugé trop original par son évêque. Qu'est-ce qui était le plus révolutionnaire finalement chez Zindel pour son époque ?
Il faisait le catéchisme d'une façon originale, pas du tout comme le catéchisme romain réglementaire. Ensuite, s'occupant de nombreuses jeunes filles, il a essayé, comme il disait, de les élever. C'est-à-dire que, au lieu de parler des choses de tous les jours, il les élevait en parlant de Dostoïevski, en regardant Rembrandt, etc. Et puis, comme il avait vu qu'elles étaient très ignorantes, 1920, il leur a même donné des cours d'éducation sexuelle.
Moderne, enfin on peut employer ce mot-là, moderne, révolutionnaire pour son époque. Est-ce qu'il était en quelque sorte protestant, Virgile Rochat ?
Peut-être qu'il avait il a reçu du protestantisme cette notion de liberté,
ouais.
Peut-être, oui. Et qui lui a donné une audace qu'il n'aurait pas forcément eue s'il était resté complètement immergé dans un bain beaucoup plus conventionnel.
Comment il était reçu par ses contemporains ? Comment on le percevait, Gilbert Vincent ?
Ici, on le percevait mal. N'est-ce pas? Et là-dessus, ma sœur, qui s'en a occupée comme taxi woman et comme secrétaire pendant 8 ans, ne comprend toujours pas, ayant lu la grande biographie des deux, là, du père de Boissière et de Madame Chauvelot, elle ne comprend toujours pas pourquoi, étant donné sa supériorité spirituelle et intellectuelle, il s'est laissé faire pareillement par ces ploucs d'ici, n'est-ce pas ?
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une obéissance quand même, là, pour le coup, dans la tradition catholique de la prêtrise qui était respectée ?
Moi, je dirais que c'est un obéissant désobéissant, parce qu'il a largement cultivé son originalité tout en essayant d'être fidèle à l'Église. Et puis, je ne pense pas qu'il voulait être révolutionnaire. Pour lui, ce qui était central, c'est le respect des personnes, jusqu'au fond. Jusque dans leur nécessité, même corporelle. Et donc, c'est ça qui l'a amené à ces gestes assez extraordinaires à l'époque.
Influencé par la pensée de Saint François d'Assise, ai-je lu, ça nous évoque évidemment le pape actuel. C'était pas une personnalité à l'époque qui devait influencer beaucoup de monde.
C'était pas tellement à l'ordre du jour dans l'Église de ce temps-là. Hein. Alors pour lui, Saint François, ça a été très important parce qu'il y a eu un moment où il s'est senti mis en exil, où il a été mis en exil. Il s'est senti sans comprendre. Il n'avait plus de travail. Il a fait une crise de désespoir et il s'est senti visité dans sa pauvreté par le Dieu que Saint François appelle le Dieu pauvre. C'est ça, cette visite profonde, intérieure, qui l'a rassuré, qui l'a mis dans l'espérance et dans la lumière.
Ce qu'il y a de poignant dans son Dieu pauvre, c'est que la compassion qu'il avait pour les pauvres en premier, donc, mais pour tout le monde aussi, pour tous ceux qu'il rencontrait, puisqu'il allait voir beaucoup de monde, n'est-ce pas ? Ma sœur l'y conduisait tout autour du lac, ici. Sa compassion s'étendait à Dieu lui-même, parce qu'il était persuadé que Dieu souffrait de n'être pas accueilli dans nos personnes. Ça, c'est original comme expérience spirituelle.
Je continue. Vous m'avez fait la transition idéale vers la suite. Effectivement, envoyé par son évêque, Maurice Zindel vit une période d'exil en France, en Angleterre et au Caire, où il réside pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1946, il est nommé auxiliaire à la paroisse du Sacré-Cœur à Lausanne. La ville restera son port d'attache, mais il est en même temps prédicateur itinérant en Europe et au Moyen-Orient. En 1972, le pape Paul VI, avec lequel il avait lié d'amitié bien plus tôt, l'invite à prêcher une retraite de carême au Vatican. Maurice Zindel mourra le 10 août 75, 6 mois après un AVC. Alors comment on explique qu'il est accueilli ici à Lausanne, même s'il n'est pas très bien vu, et puis que tout en étant un peu révolutionnaire, il arrive à prêcher de manière itinérante comme ça. Comment ça s'est mis en place tout ça ?
Bon, il a été accueilli par un curé qui s'appelle Monseigneur Ramu, un curé ouvert, généreux, entreprenant, et c'est grâce à ce Monseigneur Ramu qu'il a été accueilli ici, au Sacré-Cœur à Lausanne. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il a jamais été interdit de prédication. Il a été mal vu, il a été soupçonné, il sentait peut-être un peu le soufre, mais jamais il a été interdit, ni même censuré. Et donc, il a plutôt une mauvaise réputation, largement imméritée, mais il a toujours pu prêcher.
Et qui l'invitait, du coup, pour être prédicateur itinérant?
Alors, il y avait des personnes qui le lisaient, qu'il connaissait bien à Paris. Il a beaucoup été invité au Caire et puis au Liban, parce qu'il avait des amis libanais qu'il avait connus au Caire, dont le patriarche Hakim. Et donc, chaque année, il aimait bien aller, surtout en hiver, au Moyen-Orient.
Il y a une chose qui est assez importante. Il a été aumônier chez les bénédictines de la rue Monsieur à Paris. Et là, il a connu énormément de gens. De gens de la culture, de l'intellectualité. Ça lui a donné, au fond, une ouverture partout. Et Madame Cahill, qui était une amie de Massignon, qu'il a aussi connue alors à l'école Lafayette, l'a introduit partout en Orient. C'était quelque chose d'assez extraordinaire.
J'ai lu que l'abbé Pierre disait qu'il était capable de faire des heures de transport juste pour venir se confesser à Maurice Zindel et que c'était un moment qui l'extasiait, enfin, qu'il appréciait particulièrement. Est-ce qu'on peut dire du coup avec cette retraite de carême prêchée au Vatican qu'à la fin de sa vie, Maurice Zindel a finalement été reconnu ou validé?
Ben oui, quand j'ai voulu faire une thèse sur Maurice Zindel, à Rome, 2 ans après sa mort, quand j'ai dit qu'il avait prêché à Paul VI au Vatican, on m'a dit « alors, il n'y a pas de problème
». Est-ce que jusqu'à cette retraite au Vatican, est-ce que Maurice Zindel a souffert de la manière dont il était perçu par la hiérarchie de l'Église ?
On peut dire que oui, bien sûr. Par exemple, pendant son exil, il se sentait incompris. Il n'a jamais perçu vraiment, mais l'évêque ne s'est peut-être pas toujours très bien expliqué, les raisons qui ont fait qu'il a été mis en exil.
Ouais.
C'était juste... L'évêque, excusez-moi, c'était un vaudois prudent et encore prudent. Alors ce prêtre original et franc-tireur, il fallait un petit peu l'éloigner.
Jean-Marc Dietrich.
Oui, je crois qu'il a beaucoup souffert de cela puisqu'il n'a jamais pu rester en Suisse véritablement. Revenant de Rome, il a été envoyé à Paris. À Paris, il y est resté quelques années. Là, il n'est pas revenu en Suisse, il a été envoyé en Angleterre. Se retrouvant en Angleterre, finalement, vient la guerre et il ne revient pas en Suisse. Il vient directement en Égypte grâce à Louis Massignon et à Madame Cahill. Et finalement, ce n'est que après la guerre qu'il vient ici comme, j'allais dire, le dernier de la paroisse. Il n'était même pas vicaire ici à Ouchy. Et à partir de là, effectivement, ayant fait des connaissances durant cette itinérance, eh bien, il a été invité à droite à gauche à venir prêcher aux personnes qui avaient compris que chez Maurice Zindel, il y avait une flamme, il y avait une manière moderne, nouvelle, de son temps, d'exprimer le christianisme.
Est-ce que vous avez des anecdotes, abbé Gilbert Vincent, pour nous décrire un petit peu ce qu'il représentait pour vous, pour ceux qu'il aimait bien, qu'il connaissait?
Pour moi, il a tenu le rôle d'un sauveur, n'est-ce pas? J'arrivais de France, où j'avais fait 2 ans de théologie fondamentale et de philosophie à Lyon. Alors là, c'était magnifique, parce qu'on nous mettait en contact avec les grands auteurs, avec les grands textes, et on laissait à notre charge de tracer notre chemin. Quand je suis arrivé à Fribourg, la différence de Lyon à Fribourg était tellement énorme que je n'en suis jamais revenu. Alors c'est là que Zindel, qui était invité par des étudiants de l'université de Fribourg, a été pour moi un sauveur, voyez.
Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité.
Toujours à Lausanne pour notre discussion intitulée « Pourquoi lire Zindel aujourd'hui ?» Vous vouliez ajouter quelque chose, Myriam Volorio ?
Oui, au niveau des anecdotes, ce que j'ai souvent entendu qui circule, c'est qu'une fois il avait donné une conférence ou un cycle de conférences et il avait reçu un cachet. Et sans savoir ce qu'il y avait dans l'enveloppe, il l'a donné à un pauvre qui demandait l'aumône. Et voilà, la personne qui était avec lui était absolument interloquée parce qu'elle savait ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et voilà, je crois que ça dit beaucoup de la façon
de l'homme, ouais, de cette façon de vivre la pauvreté. Mmh. J'ai cru entendre que à la cure, il demandait un menu un peu particulier aussi quand il déjeunait.
Les pommes de terre, ils venaient. Quand j'étais curé à Cuilly, ils venaient une fois par semaine. Ma sœur le conduisait. Et Madame Miasson, ma gouvernante, lui faisait tout le temps le même menu, pommes de terre au lait, et elle ajoutait quelques champignons dedans. Alors ça, c'était l'entrée au paradis, vous voyez.
Vous nous avez partagé tous vos connaissances sur la vie de ce prêtre atypique et charismatique. Parlons maintenant de l'œuvre. Maurice Zindel laisse une vingtaine d'ouvrages, de nombreux articles et conférences. Des ouvrages posthumes sont basés sur les enregistrements et conférences d'homélie. On trouve d'ailleurs, et c'est surprenant, beaucoup d'archives sonores sur le site de la Fondation. Alors des enregistrements de conférences, d'accord, mais des enregistrements d'homélie aussi. Qui enregistrait ces homélies?
Ah, des paroissiens passionnés. Par exemple, il allait à l'église Notre-Dame, ici à Lausanne, il y avait 7 messes du même dimanche, et il faisait 7 homélies différentes. Alors, il y a des paroissiens passionnés qui venaient à chaque messe enregistrer l'homélie de Maurice Zindel. Donc, on a des collections de ce genre-là. Et comme il avait une parole très originale et très flamboyante, il a été beaucoup enregistré, en effet.
Alors, il y a des extraits qui sont plus ou moins audibles. J'en ai trouvé une bien audible. C'est un extrait d'une homélie prononcée à Lausanne en 1956.
Il y a donc un lien unique parce que précisément le regard de la mère va vers l'unicité de l'enfant comme l'attachement de chaque enfant à une coloration particulière qui correspond à son être unique. Si cela est vrai entre une mère et son enfant, cela n'est pas moins vrai entre Dieu et nous. Dieu est infiniment plus mère que toutes les mères et l'amour qu'il éprouve pour nous, la passion. Il a à notre endroit cette passion qui se révélera au cœur de l'histoire, dont la passion de Jésus-Christ est une passion unique pour chacun de nous. Dieu ne nous voit pas en série, il nous voit chacun dans notre unicité. Il n'y a pas une âme qui soit absolument identique avec une autre. Chaque âme a un secret particulier et chaque âme est une révélation de Dieu qui est absolument irremplaçable. Il s'ensuit de là que chaque âme est aussi un chemin vers Dieu, à nul autre pareil. Et si nous sommes invités, durant ce carême, à nous tourner vers Dieu avec une intensité plus profonde et plus sincère, il ne faut pas oublier que le premier chemin vers Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes.
Alors j'en ai entendu où il harangue la foule un petit peu plus à l'ancienne, on dirait. Celle-ci, on pourrait l'entendre presque aujourd'hui d'un prêtre. Comment vous réagissez quand vous entendez Zindel, vous qui l'avez lu, relu, étudié, creusé? Qu'est-ce que ça fait, Pasteur Virgile Rocha?
Moi, je trouve ça complètement exceptionnel, enfin mobilisant, ouvrant, invitant. C'est une parole qui a une actualité totale.
Ouais. Il parle de vocation un petit peu plus loin. Enfin, celle-ci, effectivement, est vraiment, elle nous parle beaucoup aujourd'hui. Pour ceux qui ont découvert Zindel par son œuvre, vous, Jean-Marie Dietrich ou Myriam Volorio-Périard, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Comment vous avez connu Zindel?
Alors, j'ai connu Zindel au cours d'une retraite en silence. Mais enfin, voilà, c'était un grand chant et les sœurs veulent tout le temps qu'on ait un petit moment avec une sœur. Et je ne sais pas ce que j'ai raconté, et elle me dit « Ah, vous devriez lire Zindel ». Alors, je suis allée à la bibliothèque et...
Vous connaissiez ou pas?
Non,
vous
non, pas du tout, jamais entendu parler de Zindel. Donc, j'ai pris un livre, c'était « Quel homme, quel Dieu ». J'ai lu et ça a été un moment très, très fort dans ma vie. Parce que ce que Zindel révélait, c'était quelque chose que je portais au fond de moi. Mais le fait que jamais personne n'ait mis des mots là-dessus... Mmh. Ça ne pouvait pas émerger. Et grâce à Zindel, ça a été comme la source devant laquelle on enlève un caillou, quoi. C'était absolument libérant. Des questions que j'osais à peine peut-être me poser, tout à coup, tout était permis. Et ce Dieu qui nous veut absolument libres et ce Dieu qui nous aime au-delà de tout pouvait vraiment vivre pleinement.
Du coup, vous avez continué à creuser, évidemment. J'imagine que quand on a un choc comme ça, on va plus loin ensuite.
Alors après, justement, je me suis renseignée et puis petit à petit, j'ai découvert qu'il existait une association des amis, un groupe à Neuchâtel dont j'ai fait partie. Et puis de là, l'association. Et puis voilà, depuis cette envie de faire connaître Zindel pour susciter chez les autres cette même, peut-être pas découverte, mais au sens vraiment étymologique de découvrir.
Ouais. Jean-Marie Dietrich, comment ça s'est passé pour vous?
Moi, j'ai rencontré la pensée de Maurice Zindel il y a près de 20 ans, lorsqu'un de mes fils m'a fait part de l'intérêt de son professeur de philosophie pour Maurice Zindel et m'a conseillé sa lecture.
Vous connaissiez ou pas? Vous aviez
pas
déjà entendu le nom?
Non, pas du tout. N'ai entendu le nom, ni le prénom, ni rien de celui-ci. Et je suis allé dans une librairie et c'est là que j'ai acquis l'Évangile intérieur, ces conférences qu'il avait données à Radio Luxembourg en 1935. Et ce fut pour moi véritablement une rencontre. J'ai trouvé chez Maurice Zindel une approche toute neuve, tout original, un amour profond et radical pour l'homme. Et vous me pardonnerez cette audace, mais il voit l'homme du point de vue de Dieu, si je puis dire, c'est-à-dire du projet de Dieu pour l'humanité. Et cela renverse totalement la perspective.
Qu'est-ce qui vous touche, justement? Qu'est-ce qui vous nourrit encore dans son œuvre, tout autant que vous êtes?
Simplement, à partir du petit bout d'homélie qu'on a entendu, j'aurais deux soulignements à faire. Le Dieu de Maurice Zindel est plus mère que père. Dieu est mère. Et on a essayé avec des psychanalystes de Cicéron, dont le protestant Thierry de Saussure. Ils voulaient psychanalyser des grands mystiques dans Maurice Zindel. La première chose qu'ils ont dite en analysant des textes, il a un point de vue très féminin sur
drôle.
Dieu. Dieu plus mère que père. Puis à propos de l'enfant, chaque enfant est une nouvelle chance pour l'univers.
Moi, ce qui me touche, c'est que pour avoir été aumônier longtemps, pendant 20 ans avec des étudiants, et vraiment essayer de comprendre les attentes et les besoins de nos contemporains du point de vue spirituel, la parole de Zindel a compris ces besoins profonds des gens. Il y a quelque chose d'une sagesse et d'une profondeur qui rejoint des attentes très profondes aussi.
Et encore actuelle, du coup.
Oui, mais très actuelle parce qu'un peu fondamentale, de toujours, je crois. Ouais.
En quoi est-ce qu'il a une vision de Dieu et de la foi qui peut parler à des chrétiens de différentes confessions, du coup? Est-ce qu'il est écuménique pour vous qui êtes pasteur?
Oui, alors il est largement écuménique, mais presque le mot écuménique est trop petit parce qu'il y a une ouverture plus loin que ce qu'on attend d'habitude autour de ce qu'on entend autour du mot écuménique. Oui, à mon avis, d'abord parce que c'est un mystique, c'est un homme qui part de l'homme pour monter. Alors la grâce est présente, mais il y a une universalité dans son questionnement qui fait que chacun, quelles que soient ses convictions religieuses, sa confession, sa religion, peut être pris en compte et puis élevé. Il insiste sur la relation avec Jésus. Et quand il fait ça, il montre que plus on s'approche de ce Dieu qui n'a pas de différence, dont la différence est de ne pas en avoir, comme il cite Fénelon, ça nous donne une place pour tout le monde, vraiment. Et ça, c'est très fort, je trouve.
Qu'est-ce qui vous touchait, vous, à l'époque, Abbé Gilbert Vincent?
La parole et l'existence ne faisaient qu'un chez lui.
C'était du témoignage.
C'est ça, c'est du témoignage. Il disait, je n'enseigne rien, je témoigne, n'est-ce pas? Et il disait, Jésus, l'Église, c'est Jésus. Dans l'Église, tout ce qui n'est pas Jésus n'est pas l'Église. Oui. Vous voyez? Alors, point de vue écuménique, je crois qu'à Londres, ayant découvert les grandes histoires de Saint Paul Cathedral et je sais pas quoi, il a réfléchi sur l'écuménisme et il a dit toutes les communautés qui divisent l'Église ont chacune une fidélité imprescriptible comme toutes les affaires de l'esprit. Et alors il disait, l'écuménisme, il faut se mettre autour du Seigneur Jésus, du ressuscité, de façon à s'enrichir les uns les autres et de ce qu'aucune des communautés n'ait quelque chose à perdre, n'ait pas à se déjuger.
Une citation de lui, là, dès que nous prétendons faire de la vérité un monopole, nous sommes essentiellement opposés à l'esprit de Jésus-Christ.
Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de protestants comme vous lisent Zindel, sont zindéliens?
Oui, parce que ça, pour un prédicateur notamment, pour quelqu'un qui essaie de vivre cette relation avec le Christ de manière large, c'est très ouvrant parce qu'il a très souvent des approches décalées qui nous font revisiter des textes qui apparemment vont tout seuls et en fait c'est puissant. J'ai vécu plusieurs fois comme prédicateur des éclaircissements, des illuminations grâce à Zindel que j'essaye de partager d'ailleurs.
Jean-Marie Dietrich ou Myriam Volorio, qu'est-ce qui vous touche, vous, qu'est-ce qui vous nourrit aujourd'hui dans son œuvre? Est-ce que, au fil du temps, vous êtes allé piocher différents éléments? Est-ce qu'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur ou...
C'est que tout ce qui concerne l'homme concerne Dieu. Je crois que ça, c'est très, très important. Qu'on peut arriver à Dieu que en passant par l'homme. Mm-hmm. Qu'on soit lié à l'Église ou pas. Zindel a vraiment quelque chose à nous dire, en particulier dans notre société où je vois beaucoup de personnes qui sont en recherche spirituelle. C'est pour ça que j'aurais envie de faire connaître Zindel à ces personnes.
Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que Dieu est une intimité. Et lorsqu'on parle d'intimité, eh bien, un homme sait ce qu'est l'intimité chez lui et chez son prochain. Et comme toute intimité, elle est sans fond. Et on peut avancer toujours plus avant dans une intimité. C'est comme dans un mystère. La lumière se fait toujours plus grande, plus on avance. Et finalement, on n'épuisera jamais la beauté de l'intimité, cette beauté si ancienne et si nouvelle dont parle saint Augustin dans ses confessions et dont Maurice Zindel aimait à parler souvent et disait que c'était là l'expérience fondatrice. C'est cette découverte de cette extériorité et de cette intériorité que saint Augustin a faite et dont finalement il dira que Dieu est la vie de sa vie, ou la beauté est la vie de sa vie.
Oui, dites-moi.
Mais ce que vous disiez, madame, sur l'identité Dieu-homme, homme-Dieu, c'est très important. Parce qu'il disait, il me l'a souvent dit à moi, quand on parle de Dieu tout seul et qu'on essaye de lui faire dire ce qu'on pense nous, vous voyez, eh bien on l'abîme.
Puis il disait aussi... Le premier article du credo chrétien, c'est pratiquement « Je crois en l'homme ». Puis il faudrait ajouter « Parce que Dieu, le premier, croit en l'homme qu'il a créé et qu'il accompagne tout le temps ».
C'est un message plein d'espérance aussi. Enfin, c'est optimiste, c'est positif, ça porte, quoi, non?
Oui, parce que c'est croire en l'homme possible. Donc chaque homme peut s'élever un petit peu, se relever ou se laisser élever, si disons, par la grâce. Et même le plus lamentable des condamnés, des criminels, il peut toujours monter un peu.
C'est quelqu'un qui parlait des choses de son temps aussi. J'ai vu qu'il faisait pas mal référence aux penseurs, aux philosophes, aux artistes, à la science. Il était vraiment pas hors sol là pour le coup. Et c'est quelque chose qu'on apprécie de quelqu'un qui témoigne d'un pasteur au sens. Pasteur et brebis.
Ah oui, on a trouvé dans sa bibliothèque la théorie de la relativité d'Einstein annotée.
Oh punaise.
Je ne sais pas s'il a tout compris, mais il a lu.
C'est-à-dire que son anthropologie nous fait penser à l'intelligence artificielle et aux robots, vous voyez. Parce que pour lui, on est robot d'abord, et c'est ensuite qu'on devient homme. Alors on le devient ou on ne le devient pas, on reste robot ou on ne le reste pas. N'est-ce pas? Alors, naturellement, ça a beaucoup d'impact maintenant dans toutes ces réflexions qu'on a. Et à Lausanne, il y a l'EPFL qui s'occupe beaucoup de l'intelligence artificielle. Il faut que je fasse en sorte qu'ils disent Zindel.
Oui, je crois que Maurice Zindel est un mystique réaliste, comme on le présente souvent. Oui. Et si vous lisez ses conférences ou si vous écoutez ses homélies, vous verrez qu'elles sont toujours émaillées de lectures, d'approfondissements. C'est quelqu'un qui avait quand même 6000 ouvrages dans sa bibliothèque. Et puis, c'est je crois, quelqu'un qui, de son temps... voyait déjà le monde de demain arriver. Il parlait de la robotisation, il parlait de la cybernétique, il parlait de ce qu'il entendait par l'Église après Vatican II, et Dieu sait qu'on peut en parler aujourd'hui. Il parlait d'économie, il a écrit au président des États-Unis, il a beaucoup d'articles là-dessus, c'est sans doute un point qu'il faudrait aussi creuser. Il parlait des nouvelles technologies, il parlait des dogmes de manière toute nouvelle. Aujourd'hui, quand on parle de dogme, on est dogmatique, c'est presque une injure qui est faite. Et alors que lui, il vous présente le dogme de manière vivante, c'est la vie qu'il y a dans le dogme, c'est cette approche de cette intimité.
Mais il démarre aussi ses homélies avec des situations de quotidiennes, de gens simples.
De la vie de tous les jours, on voit là une maman jours, avec là, ses enfants.
Ces homélies sur l'œcuménisme qui sont dans ce volume, Ton visage, ma lumière, elles démarrent chacune de manière très humble dans un quotidien que dans lequel n'importe qui peut se retrouver. Et ensuite, on prend le, là, on accroche, et puis ça, il faut, mais ça, je trouve ça exceptionnel.
Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge près de chez vous.
À Lausanne pour notre discussion « Pourquoi lire Zindel ?» Aujourd'hui, on a vu la richesse de son œuvre que vous nous partagez. Alors justement, c'est intéressant ce que vous venez de dire, pasteur Virgile Rochat. Est-ce que c'est facile de lire Zindel ? Quand j'entends parler d'hommes mystiques, moi, ça peut me faire peur. Les gens que j'avoue que je connais autour de moi qui connaissent Zindel sont plutôt, voilà, on fait des études, sont plutôt des intellectuels. Est-ce que c'est abordable pour tout le monde, Zindel ?
Je pense malheureusement pas. Il faut vraiment se donner de la peine, y aller gentiment. Les conférences de Radio Luxembourg, qui est pas une radio élitaire, je crois pas que ça l'ait jamais été, je me dis comment est-ce que les auditeurs de Radio Luxembourg pouvaient entendre ce fameux dont vous avez parlé. Mais quand on prend le temps de se dire « j'y vais à mon rythme », alors peu à peu on est rencontré d'une autre manière. Mais ça demande, ça demande un effort, une envie. Mais le texte lui-même, enfin ce qu'on lit maintenant, nous donne envie d'en savoir plus. Et donc le processus peut saisir de lui-même.
Jean-Marie, Myriam, vous avez découvert Zindel en lisant. Est-ce que ça vous a semblé abordable ?
Non, je crois que Maurice Zindel au départ sans doute est difficile. Il faut du temps, comme cela vient d'être dit. Et je pense souvent, vous savez, au sachet de thé ou de tisane que vous mettez dans l'eau, il faut laisser infuser. Dès le départ, de toute manière, vous êtes accroché par une fulgurance, une phrase, un raisonnement. Et puis ensuite, il faut laisser le temps au temps. Il faut que ça entre en vous, que ce ne soit pas intellectuel. Il y a une compréhension, il y a un savoir, c'est sûr. Mais ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est faire la connaissance de cette présence qui l'habite.
Moi, j'ai tout de suite été comme visitée quand je l'ai lu. C'est peut-être un livre qui n'était pas tellement difficile. Mais sinon, après, quand on entre dans l'œuvre de Zindel, il y a vraiment des thèmes récurrents. Donc, petit à petit, on s'y fait.
Moi, j'aime bien dire que c'est très particulier, la lecture de Zindel, parce qu'elle parle d'abord au cœur avant de parler à l'intelligence. Alors, si on ne comprend pas tout du premier coup, c'est pas grave, parce que ça nous accroche par le cœur. C'est pour ça qu'il y a des personnes très simples qui peuvent lire. Alors, ils lisent des petits bouts de Zindel et ils se sentent rejoints. Et c'est ça qui est extrêmement précieux.
Par quoi on commence, du coup? Quel serait votre conseil à celui qui voudrait découvrir l'auteur, justement, et pour ne pas être rebuté, être touché?
Alors, parmi les livres qu'il a écrits lui-même, moi, je conseille toujours L'Évangile intérieur. C'est Séquencerie à Radio Luxembourg, magnifique, 1935, c'est toujours actuel. Et puis, sinon, les livres qu'on a fait après sa mort, les recueils d'homélie, comme a cité mon ami Virgile, ou les retraites retranscrites. Parce qu'évidemment, c'est du langage oral, donc il s'exprime de façon moins serrée que dans le langage écrit.
Abbé Gilbert Vincent, est-ce que à l'époque, Maurice Zindel, il touchait tout le monde, justement ?
J'en sais rien. En tout cas, moi, il m'a touché alors que je ne le connaissais pas du tout. Je vais une fois avec un ami français à la messe au Valentin, la Notre-Dame à Lausanne, et puis on voit un petit bonhomme qui s'agite sur une chaire et qui parlait comme Malraux. Vous voyez, il avait pris à Paris cette manière qu'avaient les intellectuels français à ce moment, la Mauriac aussi.
Bien, j'en ai entendu comme ça dans vos archives sonores sur le site, où il parle comme ça. Ouais.
Alors ça nous avait flanqué le fou rire. Puis en sortant, mon ami là me dit, mais il est étrange ce bonhomme, mais quelle intelligence.
Pour ceux qui participent à des groupes de partage ou de lecture, comment ça se passe et qu'est-ce que ça vous apporte, Myriam, vous ?
Alors, dans le groupe de Neuchâtel, qui est un groupe œcuménique, on prend tour à tour l'animation. Une personne va déjà proposer la lecture qu'on va faire. En ce moment, on est en train de lire les sermons, des homélies. Et puis, on relit le texte ensemble de façon fragmentée, si la personne le souhaite. Et puis, voilà, on partage. Et puis, c'est très intéressant parce que d'avoir la vision d'autres personnes, d'avoir l'expérience aussi où sont rejointes les autres personnes par ce qui est lu, c'est très enrichissant.
Vos lectures sont plus solitaires, Pasteur Virgile Rocha, Jean-Marie Dietrich?
Oui, plus solitaires, mais comme on l'a déjà dit, je crois que ça vaut la peine d'insister, c'est pas de l'intellectualisme, ouais. C'est de la rencontre de la personne divine. Donc, solitaire ou en groupe, on est rejoint dans cette quête. Et moi, j'ai envie de conseiller aux gens, même qui sont totalement incroyants, voire fâchés contre le christianisme, de lire Zindel, parce qu'il y a là un mystère, une pierre précieuse à découvrir.
Moi, je lis Zindel au quotidien. Je dois le confesser, si je puis dire.
Vous avez le droit. C'est pas un péché, je pense.
Je le lis tous les jours parce que je découvre chaque jour quelque chose de neuf, une nouvelle perspective, une nouvelle manière de voir telle chose, ou ce que je n'avais pas compris la veille, ou même un an avant.
J'allais avec les gens, puisqu'il allait beaucoup, beaucoup visiter, n'est-ce pas? C'était énorme, les visites qu'il faisait. Alors, il écoutait tout, il était... Il n'y avait pas besoin d'avoir fait le collège ou l'université. N'importe qui, il entrait dans quelqu'un, n'est-ce pas? C'était pas une leçon de catéchisme. Il entrait dans ce qu'il vivait, dans ses grandeurs et ses misères, quoi. Vous voyez, c'était cette manière de compassion qui, encore une fois, s'étendait jusqu'à Dieu.
Et quand on lit Zindel, du coup, on se dit, je sais pourquoi je suis chrétien, je sais pourquoi je crois en Dieu, ou alors je me sens proche de Dieu, de Jésus. Qu'est-ce qu'on ressent finalement dans l'évolution de sa foi?
Je sais pourquoi je crois en l'homme et en l'espérance.
Joli.
Oui, je dirais la même chose. C'est d'abord la connaissance de l'homme qui est importante, parce que c'est vraiment le chemin et c'est le seul chemin pour aller à Dieu. Mais comme dirait Maurice Zindel, c'est pas l'homme préfabriqué, c'est pas l'homme qui est pour lui d'ailleurs un cadavre. Il parlait de cadavre vivant quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. La plupart des hommes sont des cadavres vivants, disait-il. Et donc il appelle l'homme à devenir vraiment l'homme.
Alors, une de ces fameuses formules, il disait, ne nous demandons pas si nous allons vivre après la mort, demandons-nous si on va naître avant de mourir.
L'essentiel est d'être vivant avant la mort.
Ou bien l'homme n'est pas tout fait, il a à se faire, l'humanité est une vocation.
Dis donc, il va falloir que je les note toutes vos... Je les mettrai sur notre page, sur le site internet, plein de citations de Maurice Zindel. Vous lancez donc les œuvres complètes de Maurice Zindel, vous avez annoncé ce lancement, officialisé ce lancement fin 2019. Comment est née l'idée, puis comment vous la mettez en œuvre? Parce qu'on a vu l'ampleur de l'œuvre. Alors il y a évidemment les ouvrages qu'il a écrits, mais il y a toutes ses homélies, ses conférences.
Alors, l'idée est née dans la Fondation Maurice Zindel, dire ben, pourquoi on ne ferait pas une fois les œuvres complètes de Maurice Zindel. C'est une sorte de monument.
Ça va faire 9 volumes de 600-700 pages, c'est ça?
De 9 volumes de 500 à 600 pages, effectivement. Et donc, ça rassemble tous ses livres, 20, ça rassemble tous ses articles de journaux et de revues, qui sont beaucoup plus difficilement accessibles, et ça rassemble un certain nombre d'éléments de ce qu'il a prêché. De façon thématique, les éléments qu'il a prêché, les livres de façon chronologique. Et donc, si je fais un peu de marketing, par exemple dans le deuxième tome qu'on vient d'inaugurer, de Vernier, Harmonique, il y a 3 de ses livres, parmi les plus précieux d'ailleurs. Notre-Dame de la Sagesse, Méditation sur Marie, L'Évangile intérieur, et puis Recherche de la personne. Et donc, voilà, vous avez 3 livres en un, plus des bonus.
C'est important pour vous, voilà, que ça facilite l'accès à l'œuvre, ça permet de tout rassembler.
Alors j'ai essayé de mettre des commentaires, des annotations, parce qu'il y a des choses évidemment de 1930 qu'on comprend plus beaucoup maintenant. Mm-mm. Alors j'espère que ça facilite un peu l'approche, mais évidemment des volumes aussi épais, c'est pas pour le grand public. On espère juste que pour ceux qui veulent approfondir, ce soit un beau chemin.
Il va falloir trier. Petit à petit, justement, dans tous ces textes, vous avez dit, on en rassemble certains de manière thématique. Quels sont vos biais, vos critères?
Alors, tout ce qu'il a écrit lui-même et qu'il a fait imprimer, évidemment, sera repris. Par contre, dans l'œuvre orale, comme ça se répète quand même souvent, ben je prends les choses les meilleures. Évidemment, c'est un peu subjectif, mais j'espère que la connaissance que j'en ai ne le rende pas trop subjectif.
Oh, quand même. On en est donc au tome 2 de ces œuvres complètes. Si vous continuez à ce rythme-là, pour les 50 ans de l'anniversaire de sa mort, tout sera paru.
J'aimerais donc un volume par année et j'aimerais finir en 2025, effectivement, pour les 50 ans de sa mort.
Vous avez aussi à la Fondation, je crois, le projet d'un espace Zindel. Là, on voit déjà toutes ces photos, ces images que vous avez ici à la paroisse du Sacré-Cœur de Lausanne. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel espace?
Grâce à la paroisse du Sacré-Cœur, qui prend conscience de cette immense chance qu'elle a eue d'avoir Maurice Zindel pendant 30 ans et qui est très, très, très généreuse. Alors, ce qu'on va sûrement avoir, c'est une grande salle pour faire de l'animation, des expositions, etc., plus une autre salle sécurisée pour déposer toutes les archives de Maurice Zindel, voilà. Proche de la gare.
L'idée aussi que le patrimoine sonore ou peut-être des vidéos de témoins comme l'abbé Gilbert Vincent soit rassemblé, qu'on garde trace.
On est en train d'enregistrer des témoins. Qui l'ont connu, donc plutôt un peu âgé, évidemment, et on se dépêche pour avoir tout un tas de témoignages sur les rencontres avec lui.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Myriam Volorio, pasteur Virgile Rocha, Jean-Marie Dietrich, ce futur espace Zindel et puis la parution de ses œuvres, pour vous qui êtes tous zindéliens?
Ah, je pense que c'est une excellente nouvelle, on ne peut que s'enthousiasmer pour ce projet, parce que je crois que la pensée de Maurice Zindel mérite d'être mieux connue, mieux diffusée, parce qu'elle répond, je crois, aux recherches de l'homme d'aujourd'hui. Et c'est heureux que là où il était quand même un bon moment de sa vie, puisque c'est à Ouchy qu'il a été, et qu'enfin, peut-être on prenne conscience qu'il y a une richesse, il y a un joyau, et qu'il faut le faire briller de mille feux.
Puis c'est le moment de rendre publiquement hommage à ce cher Marc, parce que sans lui, rien ne se passerait.
Tout à fait vrai, bravo Marc d'oser de cette consécration pour Zindel, ce travail.
Les Zindeliens approuvent. Est-ce que vous aimeriez le voir saint un jour?
Alors, on nous a demandé de mettre en route son procès de béatification. Alors, on en est au tout début où il faut faire la demande à l'évêque d'ouvrir un procès de béatification.
Une cause pour, etc.
Voilà.
Et moi, comme protestant, j'avais exactement la même question. Donc, je suis heureux de savoir que ça démarre parce que ça va donner, là, ça donne du rayonnement. Il n'y a pas de doute. C'est mondial.
Pour le côté rayonnement, oui. Vous, abbé Gilbert Vincent, ça vous inspire pas trop pour le coup?
Pas du tout.
Pour moi, il est déjà saint. Le fait de ce procès en béatification me fait un tout petit peu tiquer parce que je me dis il a quand même beaucoup souffert
de pas être connu,
de pas être connu. Ouais. Et après voilà, on veut. Mais si ça peut aider à diffuser sa pensée,
la pensée,
pourquoi pas.
Oui, je crois que Zindel l'aurait peut-être pas souhaité. Lui, que dont Paul VI, je crois, voulait faire un cardinal, et ça n'était pas du tout sa vocation, je crois. Mais effectivement, indépendamment de ce qu'il aurait souhaité, on peut nous souhaiter que cette béatification peut-être aille jusqu'à son terme. En tout cas, c'est pour nous le véhicule, le moyen de faire beaucoup mieux connaître et en plus grand nombre sa pensée. C'est un peu le porte-voix, si je puis dire. Et je crois que pour nous qui sommes proche par la pensée de Maurice Zindel et qu'il aimons, je crois que quand on aime partager et que le plus grand nombre le connaisse et je crois que pour nous c'est le plus important.
Ah bah ce sera un beau mot de la fin. Quand on aime partager et c'est ce que vous faites aussi avec le lancement des œuvres complètes. Donc nous en sommes au tome 2. Nous allons suivre l'avancée des publications. Je vous remercie tous d'avoir témoigné. Pour en savoir plus, je renvoie vers le site internet de la Fondation, mauricezindel.com. On trouve aussi sur le web les coordonnées des associations des amis de Maurice Zindel. Il en existe en France, en Suisse, en Belgique, au Canada. Donc certains qui éditent des bulletins, d'autres qui propose des groupes de partage. Merci à Baptiste Gérardot qui était à la technique et je remercie André Colli tout spécialement de 4 Info pour son aide précieuse dans la réalisation de cette émission. Belle année Maurice Zindel à tous.
Merci.